L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que la World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le Forum Pensez l'Europe. Avec lui, nous allons analyser les conséquences des frappes menées depuis le 12 janvier contre le Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni, notamment en cas de perturbation, voire de fermeture complète du détroit de Bab el-Mandeb. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Depuis la nuit de jeudi à vendredi 12 janvier, les États-Unis, épaulés par le Royaume-Uni, ont mené des frappes sur le Yémen visant, selon le communiqué de la Maison-Blanche, les installations militaires du mouvement chiite Houthi Ansarullah. En effet, les Houthis ont multiplié ces dernières semaines les attaques contre les navires commerciaux en lien avec Israël au large du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Ces actions devraient manifester leur solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Les frappes américano-britanniques ont ciblé des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les Houthis. Groupe soutenu par l'Iran, a indiqué la chaîne de télévision du mouvement Al-Masira. La capitale Sana'a, la ville côtière d'Al-Hudaïda, Taïz, Damar et Sa'da ont été visées. Un haut responsable gouvernemental américain qui a requis l'anonymat a assuré que 60 frappes avaient visé spécifiquement 16 infrastructures de missiles, de radars et de drones avec 100 missiles de précision. Ainsi, comment lire et projeter toutes ces évolutions cruciales et rapides sur la géopolitique et la géoéconomie mondiale ? L'architecture multipolaire est-elle devenue inéluctable ? Quelle place pour l'Afrique dans cette nouvelle dynamique tectonique dans les relations internationales ? Pour analyser et tenter de répondre à toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que la World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le forum Pensez l'Europe. Monsieur le ministre Mohamed Laïchoubi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Oh, c'est moi qui vous remercie. C'est un privilège que de saluer mes amis auditeurs africains à travers votre radio.
Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, Monsieur Laïchoubi, depuis le 7 octobre 2023, il est clair que le conflit israélo-palestinien a une influence considérable sur le détroit de Bab el-Mandeb, sur le golfe d'Aden, à cause de son poids stratégique. Le Hezbollah continue d'attaquer Israël avec des missiles, notamment les tours de communication face à la frontière libanaise. Les forces de la résistance irakienne attaquent les bases américaines en Irak et en Syrie. Et Ansarullah, c'est-à-dire le mouvement chiite Houthi du Yémen, bloque concrètement actuellement la mer Rouge aux navires israéliens. Alors, ma question... Peut-on dire que la guerre contre le Hamas et Israël s'achemine vers une nouvelle escalade régionale avec le déclenchement possible d'une réponse concertée de l'axe de la résistance aux frappes anglo-américaines ? Et dans ce cas, est-ce la fin de l'hégémonie américaine dans la région du Moyen-Orient ?
Alors, je suis totalement d'accord avec votre introduction. C'est vrai que pour mieux éclairer ce dossier, il faut analyser l'ensemble des problématiques et surtout les nouvelles donnes. Il faut certainement se rappeler que cette région qu'on a appelée communément le Moyen-Orient a été donc secouée par différentes guerres entre Israël et les pays frontaliers, les pays arabes, en 1967 et 1973. La particularité, c'est qu'elle était menée par des États et donc des armées structurées. Mais entre-temps, les différentes défaites, les conflits ont jeté un discrédit sur les gouvernances d'un certain nombre de pays frontaliers et ont fait émerger des mouvements de guérilla qui ont repris les stratégies contre Israël, les stratégies militaires face à Israël, mais évidemment d'une manière différente, puisque c'est des stratégies de guérilla initiées par des communautés, une résistance populaire, le Hezbollah, Hamas, puis les Houthis, les différents groupuscules existants, notamment en Irak. Et donc, ce discrédit, notamment occidental, sur les gouvernances arabes, et cette désagrégation, ce manque de poids, a fait que les opinions ont pris le dessus et les mouvements populaires sont nés sur la base de ces discrédits. Et donc, immédiatement, on a eu plus de succès sur ces actions de guérilla. Il faut se rappeler, en juillet 2006, le Hezbollah, et puis maintenant, Gaza, le 7 octobre 2023, ça a eu un impact extraordinaire, terrible, parce que c'est tout le concept de vulnérabilité après le 7 octobre 2023 d'Israël, puissance technologique militaire qui a été totalement sapée, qui a été ébranlée. Et puis la société israélienne elle-même, elle est sidérée parce qu'elle avait une foi extrêmement importante sur les stratégies israéliennes, sur la puissance militaire, sur l'assurance. Les alliés occidentaux eux-mêmes sont choqués et ils ont volé en secours en dégageant notamment des efforts militaires avec deux porte-avions qui sont venus de General Ford et l'autre second porte-avions Eisenhower, chacun abritant plus de 6 000 marines, avec évidemment des munitions, un effort financier considérable. Mais il y a eu différents impacts extrêmement importants. D'abord, la pseudo-paix qui était initiée par les Occidentaux sur 30 ans n'a rien rapporté. Elle a créé une illusion, puis elle a été relayée par une normalisation elle-même. Et donc, il y avait des stratégies voilées, c'est-à-dire on ne résout pas le problème essentiel, mais on fait avancer des stratégies au bénéfice non seulement d'Israël et du monde occidental, c'est de normaliser avec les États arabes pour pouvoir commercer, échanger, etc., en laissant le dossier palestinien de côté. Or, le dossier, cette stratégie est totalement contrariée, puis le dossier revient au centre de la géopolitique mondiale avec de nouvelles dames, et on peut dire une nouvelle géopolitique mondiale se dessine, et dans un contexte qu'il faut rappeler, qui est le contexte ukrainien, la guerre en Ukraine, qui est le contexte des tensions terribles en mer de Chine, qui est le contexte du Sahel avec des compétitions acharnées exacerbées. Et l'élément essentiel, vous l'avez dit, c'est qu'immédiatement, cela a eu pour effet une expansion du conflit. Le Hamas a ouvert de nouvelles perspectives pour les stratégies militaires. Finalement, il faut souvenir que les faiblesses tant occidentales qu'Israël sont liées en termes de stratégie militaire aux paramètres humains, hommes. Et qu'il s'agit d'engager des troupes sur le terrain, c'est des puissances et Israël se retrouve immédiatement en difficulté. Or, cette nouvelle stratégie de guérilla sur le terrain exige qu'il y ait une implication humaine. Et c'est la raison pour laquelle la réponse d'Israël a été terrible, elle a été féroce. Elle a déclenché une guerre d'anéantissement pour altérer les capacités humaines palestiniennes. Au 500e jour, imaginez que vous avez plus de 23 968 morts, dont 70% des victimes sont femmes et enfants. Plus de 60 500 blessés, 65% des habitations détruites. Et donc, c'est vraiment une stratégie d'anéantissement parce que, dans leur vision, c'est l'élément humain. Il faut le détruire. Et donc, face à une guérilla audacieuse, souple, efficace, souvenez-vous des ULM, les murs, les ceintures ont été défoncées avec des commandos déterminés, la technologie mise en échec. C'est totalement différent des guerres d'intifada. Vous avez un peuple avec de la pierre, c'est maintenant des commandos déterminés, des guérillas souples, efficaces, intelligentes, très difficile à maîtriser. Donc le conflit reprend sur des dimensions redoutables. La répression est féroce, avec un consentement discret des Occidentaux. Mais cela rappelle, si vous voulez, un peu les guerres anticoloniales, avec la même problématique, avec les mêmes trains de répression, et avec le grossissement du mécontentement, et puis le grossissement des mouvements de guérilla. Mais autre élément nouveau, c'est maintenant l'espace des valeurs morales qui est aussi atteint, avec la plainte de l'Afrique du Sud, soutenue par l'Algérie et un ensemble de mouvements. Le conflit se dépasse aussi sur l'espace juridique, avec sur l'espace des valeurs morales, des valeurs humaines. Alors qu'avant, sur les autres conflits, c'était les médias occidentaux totalement contrôlés qui établissaient les priorités, qui qualifiaient, qui validaient l'ensemble des argumentaires médiatiques. Donc, le piège occidental d'une paix qui vient, mais qui ne vient pas, qui n'a absolument aucune consistance, qui n'est qu'une illusion, se referme sur l'espace occidental, sur les alliés. Mmh. Pourquoi ? Parce que cette architecture démocratique de droits humains, de valeurs, est totalement piégée. L'illusion, pourquoi piégée ? Vous prenez le dossier ukrainien, entre-temps, qui a influencé, où on a pu observer que les réfugiés qui ont essayé de fuir l'espace de guerre, il y avait 19 000 étudiants africains, 20 000 indiens, ils ont subi des discriminations terribles sur lesquelles l'Occident a globalement fermé les yeux. Mmh. Maintenant, les victimes aussi, le nombre, l'intégralité des valeurs sont piétinées par Israël et l'Occident regarde discrètement. Il évoque une trêve partielle et il soutient Israël.
Monsieur Laïchoubi, par rapport donc à ces attaques du mouvement Ansarullah sur les navires qu'il dit qu'ils sont liés à Israël, et puis la riposte anglo-saxonne actuellement, qu'est-ce qu'elle engendre comme gravité, c'est-à-dire en plus de ce que vous avez développé, sur le plan géo-économique et géostratégique. Et par là, j'aimerais bien vous rappeler qu'en 1967, par exemple, après la guerre du séjour que vous avez évoquée, par Israël contre l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le canal de Suez, est fermé jusqu'en 1975. Et en 1973, le Yémen et l'Égypte décident même d'empêcher les navires israéliens de franchir Bab el-Mandeb. Et ainsi, pendant pratiquement 8 ans, le détroit est complètement fermé, marginalisé, au profit de la route passant par le Cap de Bonne-Espérance au large de l'Afrique du Sud, plus longue, une route plus longue, mais plus sûre. Et en 1976, la part des hydrocarbures dans le tonnage en transit dans le canal n'est plus que de 28% contre 78% en 1967. Et là, actuellement, les expéditions de pétrole via le détroit de Bab el-Mandeb représentent environ 12% du total du pétrole acheminé par voie maritime au premier semestre 2023 et les expéditions de gaz naturel liquéfié via ces routes à cette période constituent environ 8% du commerce de GNL mondial selon une note de Standard & Poor's Global Commodity Insight. Alors, peut-on imaginer le même scénario se reproduire actuellement ? Et dans la situation de la crise financière et économique mondiale, notamment suite à l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, que vous avez également liée au problème, quelle serait la conséquence alors que le prix du pétrole vient déjà de bondir de 2,5%? Que se passera-t-il si les Houthis décident de frapper, par exemple, les installations pétrolières saoudiennes ?
Alors, bon, c'est vrai, fondamental de rappeler que la nouvelle donne a impliqué des stratégies multiples. Ce n'est plus une intifada où il y a des victimes, comme on l'a dit tout à l'heure, civiles, sans aucune réplique, sans aucune efficacité. Mais c'est une vision globale vous avez réellement une capacité d'encerclement, de commando déterminé, efficace, entraîné, qui oblige l'adversaire, notamment israélien, et qui crée un éparpillement, qui l'oblige à surveiller le front du nord, qui l'oblige à surveiller le front de l'est et le front du sud. C'est déjà une difficulté militaire importante avec la menace du Hezbollah, la menace des groupes qui viennent de Syrie, de Cisjordanie, de Gaza, les Houthis, et donc la résistance des différents groupes irakiens. Mais en plus donc, de cette stratégie donc multiple, il y a, vous venez de le dire, une stratégie d'étranglement économique et énergétique à travers Babel-Mizeb. Vous l'avez rappelé, c'est quand même 20 000 navires en, c'est un navire toutes les 20 minutes. Et donc, en plus, c'est une zone extrêmement militarisée, avec la présence à Djibouti des USA, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Chine. 40% du commerce maritime mondial, maritime, et 12% du commerce global. Donc, le trafic a chuté 10%. Et donc, souvenez-vous, si vous avez en vision une carte, vous apercevrez qu'on rentre dans la stratégie de la géopolitique des mers, la géopolitique des trois, puisque Bab-el-Mandeb prolonge Hormuz, il prolonge le détroit de Malacca. Hormuz, c'est déjà une autre menace, parce que c'est encore plus fort que Bab-el-Mandeb. C'est 17 millions de barils quotidiens, alors que c'est nettement plus important, c'est 30% du fret pétrolier maritime mondial. Malacca, c'est 15 millions. Cela veut dire que là, il y a une implication de tous les pays, le commerce mondial, et surtout, notamment la Russie, la Chine. Et donc, la Chine va se trouver affectée par cette extension, et du coup, de façon légitime, elle se retrouve partie prenante dans le dossier. Alors, à partir de là, les Occidentaux vont se retrouvent en très grave difficulté parce qu'une intervention dans la région comme ils le font, même s'ils estiment qu'elle est ciblée, est catastrophique, mais en même temps, ça affecte tout le monde. Et par conséquent, avec donc la faiblesse, on y reviendra, de l'économie occidentale, il est clair qu'on va aller vers des négociations et que le désir de laisser le conflit s'étendre n'est pas là. Ils ont intérêt à aller vers des négociations, ce qui est une carte importante et pour la résistance palestinienne et pour également les autres parties prenantes au conflit l'Iran. Ça veut dire que c'est des cartes maîtresses pour faire pression et pour faire plier et les Occidentaux et les Israéliens.
D'accord. Il y a un aspect quand même militaire que j'aimerais bien évoquer, sur lequel je voudrais avoir votre avis. Alors, pour contrer la menace Houthi, les États-Unis ont lancé l'opération Prosperity Guardian, c'est-à-dire gardien de la prospérité, avec la formation d'une coalition de plusieurs pays, notamment de l'OTAN, afin de protéger le trafic maritime, selon eux. Alors, la frégate multimission US Languedoc, présente sur zone, a d'ailleurs abattu, selon le ministère de la Défense américain, selon le Pentagone, il y a quelques semaines, des drones au moyen de missiles Aster. Mais la solution est loin d'être satisfaisante, de l'aveu même du chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Boucard, qui dit, je cite, « Quand on tue un Shahed, c'est-à-dire un drone Shahed, avec un missile Aster, en réalité, c'est le Shahed qui a tué l'Aster, faisant référence au différentiel de coût entre le premier qui est de 20 000 euros et le second qui coûte 1 million d'euros, c'est-à-dire 50 fois plus cher. » Bien. Alors, dans ce cas, dans ce contexte, l'échec total occidental en Ukraine face à l'armée russe, dont l'essoufflement de l'aide militaire est le fait le plus marquant ces derniers jours, les anglo-saxons, à votre avis, monsieur Laïchoubi, ont-ils vraiment les moyens de se lancer dans un autre conflit au Moyen-Orient? Et qu'en sera-t-il si le front taïwanais venait à ajouter son lot à cette situation complexe?
Vous savez, cette question a une dimension globale. On y reviendra. Ces conflits aux frontières de l'Europe, ces conflits en mer de Chine, ces conflits au Moyen-Orient ont un lien. On y reviendra plus tard, si vous le permettez. Mais en attendant, l'essoufflement est évident. Pourquoi ? Parce que chaque conflit militaire a un contenu financier, économique, c'est-à-dire les questions qui se posent. Est-ce qu'une nation qui rentre en guerre a une capacité de soutenir cet effort de guerre ? Et financièrement, évidemment, de soutenir l'économie, parce que quand vous êtes en guerre, en général, la fluidité économique, elle est touchée. Et puis, il faut aussi que les opinions soient là et qu'elles adhèrent. Absolument. Alors, examinons assez rapidement à travers quelques chiffres, parce que déjà, la dimension militaire, dès qu'il y a, on l'a dit, évoqué tout à l'heure dans des nouvelles donnes, dès qu'il y a effort de contingent humain, c'est des espaces occidentaux ou israéliens qui sont en énorme difficulté. Deuxièmement, l'éparpillement des stratégies, des efforts militaires, devoir soutenir les tensions en mer de Chine, devoir soutenir les tensions en Méditerranée, devoir soutenir les tensions en océan Indien, etc. Ça a non seulement un coût, mais c'est une stratégie d'éparpillement qui affecte énormément l'efficacité militaire. Maintenant, l'efficacité de pays. Prenez le G7. Ils sont à une moyenne d'endettement de 128,62% du PIB. Le Japon est à 255,07% d'endettement. Les USA sont à 121,31% d'endettement. Ça d'une part. D'autre part, en termes de démographie, on parlait de l'élément humain. L'élément humain, non seulement il apporte une dimension au conflit militaire par son engagement, mais en plus par sa capacité à soutenir une dynamique et économique. Et là, la démographie est en berne, totalement en difficulté, mais surtout le contexte, c'est un contexte d'élection. Imaginez qu'en 2024, en l'occurrence cette année, plus de 51% de la population mondiale est concernée par des élections, c'est-à-dire 4,1 milliards de personnes dans un contexte géopolitique extrêmement trouble. Et le rôle des opinions dans le soutien des conflits, l'acceptation et en même temps l'acceptation d'une économie morose en difficulté avec une croissance mondiale totalement ralentie, des mouvements sociaux. Alors les USA vont rentrer en élection, les élections se déroulent le 5 novembre. L'Inde, c'est en mai. L'Union européenne, c'est le 6 et le 9 juin. L'Iran, c'est le 1er mars, etc. Et donc, il est clair que c'est un contexte qui n'est pas du tout favorable. Et par conséquent, il est évident que c'est des puissances qui vont chercher à s'extirper très rapidement de cette place, de cette difficulté, de ce piège. Parce qu'ils ont des économies en difficulté, ils ont un process technologique qui est remis en cause, une industrie polluante, une démographie en berne, une difficulté sur les ressources en eau, une difficulté sur les nouvelles technologies environnementales, etc. Donc, ils doivent inventer tout un nouveau process et en même temps, l'endettement, en même temps, l'hiver qu'on appelle démographique pour certains, et les difficultés, et puis des opinions agitées, parce qu'il faut se souvenir que c'est des espaces politiques où la cartographie et montre des fractures. Les fractures, les populismes qui montent. Et donc, les élections, cette période, ce contexte économique, social et puis électoral, n'est en rien favorable. Donc, il est évident qu'ils vont devoir chercher des issues, des sorties. Et donc, si dans un premier temps, dans cette période de transition globale, mondiale, si dans un premier temps, la violence prend dessus, il est évident que très rapidement, avec l'essoufflement qu'on note déjà, il est évident qu'ils vont tenter de rechercher des sorties et il est évident qu'ils n'ont pas la capacité à soutenir ces efforts. Il y a non seulement un essoufflement, mais en plus, à l'intérieur des opinions, il y a une extrême lassitude.
D'accord. Une dernière question pour cette première partie. Les cinq premiers BRICS, le premier pays des BRICS, dirigé par le duo stratégique Russie-Chine, ouvriront les portes à trois grandes puissances d'Asie occidentale, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, donc depuis janvier 2024. Alors, leur adhésion à la puissance multipolaire offre à ces pays une plateforme exceptionnelle pour des marchés plus larges et susceptible d'accompagner une vague d'investissements et d'échanges technologiques. Le jeu sophistiquée et à long terme jouée par la Russie et la Chine conduit à un changement tectonique complet dans la géoéconomie et la géopolitique de l'Asie occidentale par le fait, tout simplement, que ces pays ne sont pas dupes de la situation que vous avez décrite des pays occidentaux dans votre réponse de la troisième question. Alors, comment analysez-vous ce changement et que pourrait-il engendrer dans la redéfinition de l'architecture géopolitique de la région?
Alors, vous savez, quand on fait de l'analyse objective, sérieuse, il faut aller vers les éléments qui peuvent dicter, les mêmes éléments d'analyse qui dictent une conclusion. Alors, les BRICS, c'est 4 fois plus de population que le G7. En l'occurrence, c'est 3 600 millions de personnes. La démographie du G7 en 1975, elle représentait 16% de la population mondiale. En 2023, elle ne représente plus que 8 ou 3% de la population mondiale, quand les BRICS, eux, représentent 45,5% de la population mondiale. La superficie, donc les territoires immergés des BRICS, c'est 36%, en l'occurrence 48,5 milliards de kilomètres carrés. C'est donc 2 fois plus que le G7. Alors, la croissance, le PIB, la part du PIB mondial, les BRICS en 2003 étaient à 20%, maintenant ils sont à 36,9%. En 2003, le G7 était à 42%, il est maintenant à 29,9%. Alors, avec l'expansion des BRICS, c'est plus de 5% du PIB mondial qui vient s'additionner. C'est 44% des réserves mondiales de pétrole. Et pour donner un autre exemple, 49% de la récolte mondiale de blé, c'est les BRICS. Mmh. Quand le G7 ne pèse que 19,1%. Pour le riz, c'est 55% pour les BRICS et 2,6% pour le G7. Donc, quand l'on compare, que ce soit qu'il s'agisse des poids militaires, économiques ou financiers, il faut comparer les profondeurs stratégiques. Donc, il est évident que les BRICS sont dans une dynamique extrêmement importante et que d'ores et déjà, ils ont un poids qui devient de plus en plus important. Maintenant, il reste les faiblesses. C'est-à-dire que vous avez des positionnements, repositionnements. Vous aviez le Brésil qui, avec Lula, revient quand il était contre. C'est l'inverse avec l'Argentine qui revient dans le giron occidental. C'est des hésitations, pas des hésitations, c'est des positionnements, repositionnements sur les choix stratégiques, puisque vous montrez que l'Arabie Saoudite, que les Émirats Arabes Unis, un certain nombre de pays, sont en conciliation totale avec les intérêts occidentaux lorsqu'ils ont un pied dans la nouvelle sphère stratégique. Cela veut dire qu'à l'intérieur notamment des BRICS, alors dans la sphère occidentale, il y a une sorte de cohérence militaire, sécuritaire, économique et financière, mais il y a des faiblesses extrêmement importantes du point de vue financier, du point de vue économique. À l'inverse, il y a une force économique et financière dans les BRICS, mais s'il y a un noyau déterminé tel que la Chine, la Russie et à un autre degré l'Iran, ceux qui se sont greffés sont intéressés stratégiquement sur le plan de l'économie parce qu'ils sentent qu'il y a une inversion économique mondiale, mais ils n'ont pas, pour le moment, une dimension d'adhésion stratégique au sens sécuritaire ou au sens politique. Et donc, il faut observer. Il n'en demeure pas moins que c'est déjà une fausse note pour l'espace occidental qu'il y ait des pays importants qui s'interrogent, parce que la Turquie aussi s'interroge. Absolument. La Turquie aussi, dans les stratégies, tout comme l'Arabie Saoudite, commence à développer des stratégies plus nationales. L'Arabie Saoudite a financé toutes les guerres américaines au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Maintenant, elle estime qu'il va devoir s'investir un peu plus dans l'espace national. Et donc, c'est évident qu'il y a une évolution qui est plus en faveur des BRICS et qui fait que les Occidentaux ont intérêt à trouver d'autres portes de sortie parce que entre l'affrontement, les choix, parce qu'il y a à l'intérieur du monde occidental deux grands tenants pour un peu résumer. Les uns, l'affrontement et puis réduire la dynamique des BRICS et des autres pays émergents, les contrarier, et les autres qui évoquent la possibilité de construire un monde avec des compromis. Donc nous sommes, si vous voulez, un peu dans cette problématique avec des pics de crise aiguë comme en Ukraine, comme en Palestine et comme au Sahel.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que le World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le forum Penser l'Europe. Monsieur le ministre Mohamed Laïchoubi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Passons maintenant un peu aux enjeux géopolitiques et géoéconomiques, géostratégiques un peu plus globaux, pour mieux situer toutes ces confrontations. Alors, lors du sommet du G20, qui s'est tenu récemment à New Delhi, les dirigeants des États-Unis, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Commission européenne ont présenté le projet de corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, dénommé donc IMEC. Alors, il comprend une route orientale qui relie l'Inde au Golfe Persique par voie maritime et une route septentrionale reliant l'Arabie Saoudite à l'Europe via la Jordanie et Israël par voie ferroviaire et maritime. Alors, ce corridor de transport multimodal comprend des liaisons ferroviaires, des câbles de données à grande vitesse et des pipelines énergétiques entre l'Inde, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël et l'Europe. Bien. Alors, bien que ce nouveau corridor soit présenté comme un contrepoids à l'initiative chinoise de la ceinture et de la route, c'est-à-dire ce qu'on appelle le projet de nouvelle route de la soie, ce projet peut-il réellement concurrencer celui de la Chine ? Et quid de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël, qui font partie de la route de la soie et entièrement qui ont aussi entièrement des liens économiques et technologiques étroits avec Pékin. Et à ce titre, permettez-moi, M. Laïchoubi, de vous lire juste une déclaration d'un expert chinois qui dit que, d'une certaine manière, donc je le cite, c'est un professeur de l'Université de Défense Nationale de l'Armée Populaire de Libération. Il a déclaré ça en décembre dernier sur les réseaux sociaux. C'est le professeur Xiao Honua. Il dit, d'une certaine manière, les Houthis ont involontairement rendu un grand service à la Chine. Et, c'est-à-dire avec leurs attaques contre les bateaux dans le détroit du Bab el-Mandeb. Et il explique que la perturbation inciterait davantage de commerçants à utiliser le réseau ferroviaire, soutenant ainsi l'initiative de la ceinture et la route de Xi Jinping, qui vise à construire des infrastructures dans les économies émergentes. Et puis, il explique, je le cite, « L'expansion de cette dernière est précisément notre stratégie internationale visant à rompre l'hégémonie américaine, à saper la puissance maritime américaine et à promouvoir la multipolarité mondiale. » Fin de citation. Alors, qu'en pensez-vous ?
Il faut évidemment, comme on vient de le faire, un peu sur les bases que nous avons préconisées, analyser les différentes tendances de façon objective et lucide. L'économie occidentale mondiale a été ce qu'on appelle, a été cohérente. Elle a eu des moments historiques de grande force. Elle a atteint plus de 75,5% du PIB mondial, même si maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, elle s'effondre. Elle a une cohérence parce qu'elle a une maîtrise des flux financiers, de la bourse. Toutes les grandes places poussières sont dans le monde occidental. Et évidemment, le Japon, c'est ce qu'on appelle un système monde qui a été bâti autour des anciennes, autour de l'Amérique impériale, autour de l'ancien Japon impérial aussi, et autour des anciennes puissances coloniales. C'est-à-dire que chez tous les spécialistes, quand des analystes l'accusent d'être hégémonique, on sent que c'est une un élément, un paramètre qui n'est pas tout à fait faux, qui n'est pas totalement erroné. C'est un monde qui avait pour objectif la domination, qu'il s'agisse de déclarations de partis de Roosevelt qui disaient que l'Amérique doit être aussi forte que Rome, Constantinople et plus forte que l'Empire britannique. Donc l'objectif de ce monde qui est l'hégémonie a été sa force sur un moment et maintenant c'est sa faiblesse. Je veux dire que quand vous évoquez les différentes initiatives pour les nouveaux mondes, parce que l'enjeu c'est comment bâtir les nouveaux mondes. L'enjeu quand vous parlez de la route de la soie, qui est un couloir qui va privilégier les infrastructures, qui va privilégier le lien, et l'autre couloir qui est en retard, qui n'est qu'une réponse. C'est-à-dire que l'un a eu la force de l'hégémonie, de la domination, mais l'a la faiblesse d'avoir laissé sur la route toute une économie mondiale marginalisée, qu'il s'agisse de l'Amérique latine, qu'il s'agisse de l'Afrique ou d'une partie de l'Asie. Donc sur la dimension politique d'une part, sur la dimension économique, l'Occident n'a plus la force. Le système monde, donc le G7, pourquoi j'ai évoqué le G7, bah c'est eux le noyau, c'est eux, les autres sont des satellites. Et donc ce système-là a eu la force, mais sa faiblesse a été de laisser tout un monde à la marge. Maintenant, tenter de récupérer par un corridor avec une vision stratégique sur la vie, encore une fois, à mon sens, il y a une erreur, parce que déjà, la stratégie de globalisation a fait de grandes erreurs, on va y revenir. Mais là aussi, l'erreur, c'est de venir de façon pragmatique pour dire nous sommes intéressés par la maîtrise et le contrôle de l'Asie contre telle puissance russe ou la puissance chinoise. Donc, ça n'est pas une option sur la construction, la réalisation d'un nouveau monde. En contrepartie, l'autre projet, lui, il s'est structuré depuis plus longtemps. Il a une capacité financière importante, il y a une banque qui a été créée, il y a aussi une volonté politique qui habite tant les opinions que les gouvernants qui sont obligés de changer d'attitude. On l'a vu, un certain nombre de pays du Moyen-Orient, même des tentations de pays d'Europe du Sud de rejoindre un espace où la dynamique de prospérité économique, la dynamique de création de richesses est plus importante. Mais en même temps, l'élément clé entre les deux, c'est que sur le second projet et de la route de la soie et les autres projets, ils sont structurés, bâtis autour d'une philosophie qui est celle de récupérer la marge, de la structurer. Parce que notamment les Chinois et les Russes ont compris une chose, c'est que face à un monde structuré, on ne peut pas, la Chine elle seule ou la Russie elle seule ne peut pas faire face au système occidental, au système monde. Par contre, s'ils bâtissent un monde nouveau, en l'occurrence l'Iran, en l'occurrence s'élargir à travers les BRICS, et les chances sont multipliées par elles. Mais évidemment, il y a des faiblesses. Est-ce qu'elles sont aussi importantes, aussi graves? Parce qu'il y a un problème de cohérence. Et puis, de compromis, les litiges latents entre la Chine et l'Inde, les stratégies différenciées entre la Chine et l'Inde et d'un certain nombre de pays. L'Arabie saoudite et les Émirats sont plutôt dans le giron occidental. Ils sont plutôt dans la dynamique d'investissement d'économie mondiale. Mais la dynamique économique mondiale est en train de changer, évidemment, en faveur des BRICS. Et pour ma part, je crois plus au projet parce que l'Inde, c'est le corridor impliquant l'Inde, impliquant le Moyen-Orient, est un corridor plus alternatif qu'une vision structurée, une vision globale, une vision organisée. Et puis, il passe vers des espaces totalement litigieux. Vous prenez les espaces du Moyen-Orient, ce sont des espaces qui vont devoir se restructurer différemment. Ils sont nés, pour la plupart d'entre eux, des lendemains des périodes coloniales, et ils vont devoir maintenant se restructurer. Ils prennent un peu plus de liberté sur la définition de leur stratégie. Donc croire que ce monde-là est figé stratégiquement et qu'il reste là, à mon sens, non. C'est un monde en mouvement, et le mouvement n'est pas nécessairement favorable à l'économie occidentale, sauf si elle change de vision politique et elle revient vers une vision plus de compromis et plus d'écoute de l'intégralité de ce qui a été le monde marginalisé.
D'accord. Pour continuer dans le même sens, j'aimerais bien évoquer une déclaration de l'ancienne Premier ministre britannique, Liz Truss. C'était déjà dès avril 2022, alors qu'elle était ministre britannique donc des Affaires étrangères, a déclaré du retour, ou a parlé du retour de la géopolitique. Et puis récemment, en tant que Premier ministre, elle a déclaré lors de sa tournée américaine visant à tenter d'influencer les républicains dans une perspective atlantiste pour qu'ils allouent des fonds à la poursuite de la guerre de Kiev, la guerre en Ukraine contre la Russie. Elle a déclaré, je cite, « L'Ukraine, Israël et Taïwan ne sont pas des guerres différentes, mais c'est la même guerre. » Donc, est-ce que, d'après ce que vous avez développé dans la première, en répondant à la première question, Mohamed Leichoubi, est-ce que ça, justement, d'abord, qu'en pensez-vous ? Quel est le lien organique, en tout cas du point de vue occidental, entre ces trois foyers de tension internationale ? Et est-ce que ça, cette unité de vision n'est pas vraiment, n'est pas en train d'être mise en place, justement, pour empêcher l'émergence de ce nouveau monde dont vous avez parlé ?
Oui, vous avez totalement raison. En fait, il faut peut-être rappeler une chose, c'est que le président Poutine l'avait évoqué d'abord en disant que l'opération en Ukraine avait comme dessous l'intégralité des stratégies d'encerclement de la Russie. On a vu comment l'encerclement de l'Iran s'est opéré, on a vu comment la Chine aussi, on opère un encerclement avec l'implication géostratégique de l'Australie, dans sa, notamment la dimension maritime, puisqu'on estime que la Chine, pour pouvoir maîtriser tous les couloirs, pour pouvoir maîtriser sa capacité d'exportation, sa capacité d'échange avec le monde sur le plan économique, exporter sa technologie et ses produits commerciaux, elle a besoin de contrôler aussi les espaces maritimes. Et donc, on a vu une velléité, notamment du monde occidental, mais surtout des USA, de contrecarrer, puisque la maîtrise que l'on vient d'évoquer, tout ça est une zone de traversement très, très dangereuse, où il y a une stratégie occidentale militaire qui était supérieure, comme vous prenez Malacca, Hormuz, Bab el-Mandeb, etc. Les bases militaires occidentales sont extrêmement nombreuses. Donc la Chine a dû reconstruire cette capacité à faire face, et ils ont aussi développé avec la Russie une capacité à passer par les mers du Nord, Baltique, etc., Vladivostok, etc. Donc on sent qu'il y a là une stratégie globale, une vision globale. Donc face à cette vision globale, cette capacité d'encerclement, cette capacité d'alliance militaire stratégique, il est évident que tant les Chinois que les Russes ne sont pas des gens naïfs, qu'ils ont une capacité de vision stratégique réelle. Donc à stratégie globale, ils répondent par une stratégie globale, qu'il s'agisse de communication et de compréhension et d'explication, ou qu'il s'agisse d'application. Il est clair que le conflit syrien, l'objectif caché était de contrecarrer la base de Tartous, de contrecarrer la capacité militaire russe à permettre à sa flotte, notamment commerciale, d'aller librement vers les mers chaudes, la Méditerranée. Et donc, les Chinois aussi ont compris. Ils savent que l'objectif n'est pas uniquement d'encercler ou de réduire la capacité russe, mais celle d'encercler, de réduire la capacité chinoise. Ça veut dire que le projet occidental, il est là. Il est dans l'hégémonie, il est toujours dans la domination. disons que les élites occidentales n'ont pas réussi encore à contrebalancer les tenants de cette première stratégie offensive agressive. Maintenant, ils sont en difficulté et c'est la raison pour laquelle tout le monde sait que le lien entre l'Ukraine, donc la frontière entre l'Europe et la Russie est affecté pour encercler. Non seulement encercler, mais contrarier la capacité qu'a l'Europe de trouver un compromis avec la Russie, tant économique qu'énergétique, puisqu'on a vu sur ce dossier-là les pipes pétrolio-gaziers, le stream ont été attaqués, ils ont été réduits. Et donc c'est ce flux énergétique, économique, qui pouvait permettre de construire une économie européenne audacieuse nouvelle, c'est ça qui est contrarié. Maintenant, le Moyen-Orient, l'objectif était la normalisation d'une part, mais là aussi, il ne faut pas se tromper. En mon sens, souvent on évoque pour Israël le fait que son existence serait menacée. Non, en réalité, l'objectif d'Israël, c'est de s'ériger ce dont elle a déjà les capacités maintenant en grande puissance, en puissance méditerranéenne, y compris en puissance en Europe centrale. Et pour cela, il lui faut, un, une maîtrise du territoire et deux, de la population, parce qu'elle sait qu'il y a un encerclement démographique. Et par conséquent, elle imagine et elle est convaincue, ou du moins une partie de l'établissement de cette politique qui a pour objectif la grande puissance, lui, il veut étendre les territoires pour permettre à ce que les populations, notamment les migrations, viennent nourrir et donner un espace fort territorialement et démographiquement. Vous savez que l'espace israélien est un des plus densifiés au monde en termes de densité au kilomètre carré. Et donc l'objectif réel, c'est être une grande puissance et pour cela, il faut annuler toute présence palestinienne ou la faire reculer au maximum. Donc c'est des stratégies complémentaires, elle dit à l'espace occidental, je suis un élément pivot de votre stratégie de domination et d'hégémonie. Et c'est le même débat que vous retrouverez en Afrique, puisqu'on tisse de nouvelles alliances, qu'on retrouve avec des pays maghrébins entre Israël, qui est un peu, si vous voulez, face à des puissances déclinantes militairement, la France qui n'a plus une présence aussi forte en Afrique et qui est obligée de revisiter ses stratégies, vous avez des pays maghrébins, un pays du moins qui se prête à cette stratégie, qui fait cette interprétation, à mon sens erronée, parce que cette interprétation, c'est une, quand vous choisissez d'entrer dans sa démarche, vous entrez dans l'intégralité d'une démarche globale. C'est-à-dire que vous épousez une dynamique économique qui est en essoufflement et qui privilégie les grandes fractures. C'est-à-dire souvent, c'est des gouvernances d'un espace minoritaire en laissant la majorité à la marge. Et puis, l'intégralité des économies, c'est des fractures sociales. Ça veut dire que vous n'épousez pas que la stratégie militaire. Et du coup, il y a des propositions qui se font sur le front du Sahel qu'il faut évoquer. Sur le front africain, il y a des propositions qui se font pour une ouverture vers l'Atlantique, alors que le pays en question n'a pas de frontière. C'est l'espace d'Afrique de l'Ouest. Sinon, il y a la Mauritanie, il y a le Sahara occidental et il y a l'Algérie. Ça veut dire que vous avez des stratégies globales qui sont complémentaires avec une vision unique. Et ces stratégies qui vont être en difficulté parce qu'elles procèdent elles se retrouvent en difficulté, on l'a vu tout à l'heure, des essoufflements économiques, une démographie en panne, et puis une vision stratégique qui n'est pas renouvelée. Hormis l'objectif d'intelligence artificielle pour pouvoir proroger une domination mondiale, il n'y a pas de stratégie qui s'impose. Et ça n'est pas les quelques actions fragmentaires de corridors que vous avez évoqués tout à l'heure, Inde, pays du Golfe, Arabie Saoudite, Europe, ou bien l'axe Israël, Maroc, éventuellement associé à une partie des pays d'Afrique du Sahel. Et donc, l'objectif, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est des conflits qui sont liés. C'est deux visions du monde. C'est un D'accord. nouveau monde qui vient et un monde ancien qui ne veut pas lâcher son remettre en cause D'accord. son hégémonie. Et je pense Bien. Que les difficultés qui viennent vont obliger les uns
Justement,
et les autres
c'est
à trouver des
c'est
solutions
le sujet de la
moins
question.
Agressives et moins hostiles.
Justement, c'est le sujet de la question suivante. En décembre 2023, dans un article intitulé « 2024, l'année du réveil géopolitique », paru dans le magazine Razvedchik, le chef du renseignement extérieur russe, Sergei Narychkin, écrit « L'année à venir, c'est-à-dire l'année actuelle, l'année 2024, sur la scène mondiale sera marquée par une nouvelle intensification de la confrontation entre les deux principes géopolitiques. Le principe anglo-saxon ou insulaire, divisé pour régner, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, et le principe continental directement antagoniste, unir pour diriger. » Alors, les manifestations de cette confrontation féroce au cours de l'année à venir, c'est-à-dire 2024, seront observés dans toutes les régions du monde, même les plus éloignées de l'espace post-soviétique, le plus important pour nous, c'est-à-dire pour la Russie, à l'Amérique du Sud et à l'océan Pacifique. Alors, êtes-vous d'accord donc avec cette analyse, et d'ailleurs vous l'avez un peu esquissé, que 2024 va connaître pas mal de bouleversements, et de quel côté, à votre avis, la balance des rapports de force va-t-elle basculer?
Écoutez, quand vous êtes dans la prospective, que vous êtes un analyste, vous revenez toujours, vous étudiez, parce que c'est fondamental et ça explique énormément les tendances. Vous prenez un certain nombre de pays, il ne faut pas oublier que 2/3 de la population mondiale, dans les années 40, 30, 50, était sous domination coloniale. Et contrairement à ce que les gens pensent, les gens regardent l'économie que j'évoquais tout à l'heure, le système monde, et ils disent il a la puissance, il a... Mais quand vous regardez de plus près, on l'a dit tout à l'heure, ils sont passés de 75% du PIB mondial à 29,9%, et que vous avez des pays comme l'Algérie, l'Égypte, et un certain nombre de pays qui ont multiplié leur population par 5, les populations, l'Afrique et le continent, qui a la plus grosse croissance. Ça veut dire tout cet espace qui a été marginalisé de façon objective, sans parti pris politique. L'erreur de la vision de globalisation, c'était d'aller proposer un schéma sur un monde qui existe, qui n'a pas bougé. C'est-à-dire, c'est l'espace au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de 1945, bâti autour des éléments pivots essentiels que sont les États-Unis, le Canada, au début l'Europe, ce qu'elle était maintenant l'Union européenne, et le Japon. Et les alliances qui ont été proposées aux autres espaces satellites ont été des alliances remises en cause constamment, rebâties, Trump est venu, il a totalement effiloché tout ce réseau qui était là. La conclusion, c'est que l'espace occidental, je l'ai évoqué tout à l'heure, ne propose pas une vision structurée, ne propose pas au nouveau monde un compromis avec une nouvelle prospérité. Vous n'avez pas d'éléments de valeur. Et ça, c'est au quotidien des erreurs stratégiques qui sont faites. L'Europe ignore toute la Méditerranée du Sud. Les débats politiques, notamment en France, chaque fois qu'on évoque l'Afrique, qu'il s'agit de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Maghreb, c'est l'immigration, c'est le rejet, c'est la reconduite. On n'a pas, il n'y a aucun pays qui a été développé grâce à la collaboration avec l'espace de l'Union européenne.
Absolument.
L'Union européenne met moins de 1% de sa capacité de coopération dans le théâtre africain. Quand le Japon et la Chine, le Japon met 25% et les États-Unis mettent 24% sur l'Amérique latine. En cela, l'Europe n'a quasiment aucune vision. Or, l'Europe est un élément stratégique. Il est vrai que les États-Unis, sur le théâtre asiatique, dans leur association avec le Japon, avec la Corée du Sud, ont nettement c'est mieux. Mais en dehors de ce théâtre, en Amérique latine, la stratégie a été constamment en échec. En Afrique, elle n'est pas heureuse. Ça n'est qu'avec Obama et maintenant en retour avec Biden qu'on réidentifie l'Afrique comme un élément important du point de vue stratégique. Mais globalement, on est plus dans les visions hégémoniques, dans les visions de confrontation, qu'on est réellement dans les visions de structuration.
Absolument.
Et on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais surtout à l'intérieur de ces espaces. C'est-à-dire que les opinions occidentales ne sont pas convaincues par le projet eux-mêmes qui est proposé, puisqu'ils estiment que des fractures sont toujours importantes. Vous avez des mouvements sociaux assez importants un peu partout dans le monde. Et je pense que cette période de transition est une période très dure pour les pays qui n'ont pas une capacité militaire de dissuasion. Ils vont en faire les frais parce que très souvent les crises, c'est sur le dos des pays relativement faibles qu'elles se bâtissent. Mais globalement, le monde nouveau, il est là. Il est important. Il a progressé de façon absolument incroyable en espérance de vie, en population, en éducation. Quand vous prenez l'Afrique ou l'Asie ou l'Amérique latine, il y a eu des progrès fantastiques. Mmh. Dans l'absolu, l'espace dit marginal a mieux progressé sur les chiffres, les statistiques, les indicateurs que le monde occidental. Vous prenez le cas de l'Algérie. L'Algérie est passée d'une moyenne d'espérance de vie avant 62 de moins de 49%, 49 ans, à 76,2 années d'espérance de vie, c'est-à-dire un gain de plus de 25 ans, avec des populations scolarisées, avec, et c'est le cas d'un ensemble d'autres pays africains, avec des croissances vigoureuses. C'est-à-dire que la réponse est d'une évidence absolue, il n'y a qu'à étudier les tendances, et il est clair que ce monde dit marginalisé est un monde qui va avoir un poids. Alors on s'intéresse énormément aux grandes puissances, la Chine, mais les gens oublient que le nouveau monde qui vient est un monde qui va être structuré. Ça veut dire qu'on en parlera, si vous voulez. L'Afrique, c'est quand même demain 2,3 milliards de personnes. Par conséquent, on évoque bien sûr les nouvelles grandes puissances qui réémergent, mais ce monde-là, marginalisé, il pèse énormément lourd. Donc imaginez des stratégies de mutation uniquement à travers des grandes puissances et à mon sens, inadéquates. Et deuxièmement, il est clair que l'espace occidental, s'il ne se remet pas en question, s'il ne s'impose pas une vision plus dynamique, plus intelligente des nouveaux mondes qui vient, il va être en de très graves difficultés. Il est déjà en difficulté. Et le risque même, c'est qu'il n'arrive plus à convaincre ses alliés, que ce soit le Japon, ou que ce soit la Corée du Sud, ou que ce soit les autres espaces.
D'ailleurs, ces deux pays, le Japon et la Corée du Sud, n'ont pas adopté la position américaine sur le conflit palestinien actuel à Gaza. Mais ils ont pris leur distance par rapport donc sur une question qui est fondamentale. Parce qu'elle y va de la présence américaine dans la région du Moyen-Orient. Ce n'est pas uniquement une question de conflit vraiment ponctuel. Il s'agit d'une stratégie globale pour toute la région. Je vous remercie. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Monsieur le ministre Mohamed Laïchoubi, je vous remercie encore une fois pour cet entretien très riche en informations. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Bonsoir, merci encore une fois et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie, mais surtout je remercie les auditeurs africains, les Africains que nous sommes. Je remercie les Africains qui nous écoutent.
Merci beaucoup. C'était l'ancien ministre et ambassadeur algérien Mohamed Laïchoubi, politologue, chercheur, membre de l'Académie royale d'Espagne, de think tanks internationaux tels que la World Policy Conference et de cercles de réflexion tels que le forum Penser l'Europe. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.